bass.
When there's a groove like that, everybody feels good.
Salut Nadi, tu vas où?
Ouais. C'est radiophonique.
Mais c'est quoi?
Une émission de radio organisée par toutes les écoles à la seconde chance. Je l'entends ici. Ouais.
Trop cool, je peux venir?
Bah carrément, tu vas pas rater ça.
Mais c'est où?
Au conseil régional. Ouais.
Mais c'est quand?
Mais c'est maintenant. Allez, on bouge, je vais être à la bourre.
Ouais. Émission spéciale de E2C en direct du conseil régional. Ouais.
Bonjour à tous, bienvenue en direct des ACD délégués stagiaires de l'ERDC du Languedoc-Roussillon. Pendant environ une heure, nous allons, moi et Nadie, vous faire découvrir ce qui se passe dans une école de la deuxième chance.
Bonjour Bédriche, vous allez bien? Et qui dit mieux que des stagiaires de l'école pour vous en parler? Bédriche et moi-même allons donc animer cette émission assistée par l'association Wakadi que l'on remercie. Et les stagiaires des 8 écoles de la région ont préparé durant 2 mois cette émission avec l'aide de leurs formateurs.
Nous allons accueillir les écoles d'Alès, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne et Perpignan. Les stagiaires de ces écoles vont nous expliquer ce qui se passe dans une école de la deuxième chance au travers de
la pédagogie,
la citoyenneté, la laïcité et la discrimination,
les frais à l'insertion,
les compétences psychosociales,
l'alternance.
Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider.
Émission spéciale de E2C en direct du conseil régional.
Mais comment, Médriche, comment cette idée d'émission entre toutes ces écoles a-t-elle pu se réaliser?
Alors, la Fondation EDF finance des projets pédagogiques innovants et la nôtre a été retenue. D'ailleurs, M. Kotaf, qui représente la délégation de région d'EDF, nous rejoindra en fin d'émission afin de répondre à quelques questions.
On accueille Karine Chevalier, qui est à ma gauche, conseillère régionale aux écoles de la seconde chance.
Bonjour à tous.
Pourquoi le conseil régional a décidé que les écoles de la seconde chance occuperait une place importante dans notre région?
Parce que nous voulons l'égalité pour tous les jeunes, quels qu'ils soient et quel que soit leur parcours. Et donc nous avons décidé de mettre les moyens pour vous aider tous, justement, à vous insérer dans la vie sociale et sur le marché du travail. D'accord. Et à vous donner à tous les mêmes chances.
Et pouvez-vous nous dire quelles sont vos missions auprès de ces écoles?
Auprès de ces écoles, bien ma mission est de coordonner l'activité des différentes écoles et puis de les mettre en lumière.
Merci Madame Chevalier. Et tout de suite, c'est parti pour une émission spéciale EDC en direct du Conseil Régional.
Alors pour commencer, nous accueillons les 2 écoles de Montpellier qui nous parleront de la pédagogie mise en place dans ces écoles.
Podologie, l'émission qui va s'occuper de vos pieds.
Non, c'est une blague.
Pédagogie.
Non mais quoi?
Pédagogie.
Bonjour Leïla.
Bonjour Wafa.
Nous sommes stagiaires sur les écoles de Montpellier.
On passe en moyenne 2/3 de notre temps sur la formation dans le centre. On va donc parler de 2 notions importantes pour nous. La notion d'individualisation et de la pédagogie active.
La pédagogie, c'est justement de laisser la parole aux stagiaires. On aura donc le témoignage d'un stagiaire sur son recrutement.
Un reportage sur l'organisation des cours.
On parlera aussi de pédagogie active.
Et des émissions qui sont confiées à nos référents individuels.
Et on terminera par la démarche qualité mise en place par les écoles.
Mais on laisse tout de suite parler à notre conseillère d'un jour à la MLI.
Bonjour, j'ai rendez-vous à la dame de la cour.
C'est votre premier rendez-vous?
Oui.
Suivez-moi, je vous accompagne jusqu'à son bureau. Voilà, c'est ici.
Bonjour, je suis Pascal.
Bonjour Pascal, installez-vous. Je suis Madame Delacour, votre conseillère MLJ. Avant de vous guider dans vos démarches, dites-moi si vous êtes inscrit à Pôle emploi.
Oui, je suis inscrit à Pôle emploi.
Bien, mon objectif va être de vous aider à définir un projet professionnel.
Je n'ai pas de projet professionnel pour l'instant.
Ce n'est pas un problème, dites-moi simplement quel est votre niveau scolaire et si vous avez des diplômes.
J'ai quitté l'école en 3e, je n'ai que mon brevet des collèges.
Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui vous intéresse?
Je ne sais pas. J'hésite entre la logistique, le transport, la vente, et puis mon niveau est faible. J'ai tenté d'intégrer une formation qualifiante, mais je n'ai pas réussi à passer les tests de sélection à cause du français.
Je peux vous orienter vers l'école régionale de la deuxième chance.
C'est quoi l'école régionale de la deuxième chance? Parce qu'à 23 ans, je ne me vois pas retourner à l'école.
C'est un centre de formation en alternance avec une remise à niveau dans les matières générales et des stages en entreprise. C'est un tremplin qui va vous permettre d'intégrer une formation qualifiante, diplômante ou un emploi.
Qu'est-ce que c'est que ce plan? J'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas dans quoi avant d'embarquer. Mais bon, on va quand même essayer.
Si ça vous intéresse, je peux vous faire une fiche de prescription pour l'information collective de lundi prochain. Sachez que l'entrée dans cet établissement est gratuite.
Oui, ça peut m'intéresser. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès?
On va vérifier ensemble. Alors, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois et ne pas avoir de diplôme. Sachez qu'à l'issue de cette information collective, un entretien vous sera proposé. L'entrée à l'heure de ces petites rapides, les inscriptions sont possibles toute l'année.
Est-ce que la formation est rémunérée?
Oui, par la région.
Ça me rassure, j'ai un loyer à payer.
Avez-vous d'autres questions?
Des tonnes. Non, je vous rappellerai quand j'aurai la réponse de l'école.
Pensez à prendre un CV et n'oubliez pas que les critères de sélection, c'est la motivation.
Bien sûr que je suis motivé, sinon je ne serai pas là.
Je vous accompagne, bonne continuation à vous et on reste en contact.
Bonjour Pascal, comment s'est passée la réalisation de cette fiction?
Le scénario a été écrit à plusieurs. On a vérifié que tous les éléments importants s'y trouvaient et que cela se rapprochait de la réalité. Ensuite, on a procédé à l'enregistrement, puis à l'habillage sonore.
Mais tu trouves que cela ressemble à la réalité?
Oui, cela ressemble à ce que j'ai vécu, même si la conseillère paraît assez jeune. Par contre, il n'y a pas que la Émilie qui peut orienter vers les écoles de la deuxième chance. J'ai des collègues qui ont été orientés par Pôle emploi, Cap emploi, le CIDF, et même les conseillers généraux pour les bénéficiaires du RSA.
Merci Pascal pour ton témoignage sur cette expérience.
D'ailleurs, en parlant de vécu, on va maintenant retrouver Marion et Kevin qui vont nous parler de leur recrutement.
Il y a quelque temps, Marion et Kevin ont décidé de prendre leur vie en main. Leur conseiller mission locale des jeunes leur propose une formation à l'E2C. Quelque temps après, l'E2C convoque Marion et Kevin à une réunion d'information collective où on leur présente le contenu de la formation. D'abord, les critères de sélection. Avoir entre 18 et 25 ans, être sans diplôme ou sans qualification, être inscrit au Pôle emploi, être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois, être volontaire et motivé pour s'investir tout au long de la formation. Ensuite, il y a une présentation des modules, comme la remise à niveau des savoirs de base, les projets pédagogiques et l'élaboration du projet professionnel. Enfin, la responsable parle du fonctionnement de la formation, comme le cadre à respecter, les horaires, la vie en collectivité, et insiste sur la motivation. Après cette réunion, Marion et Kevin sont reçus en entretien individuel pour évaluer leur motivation, critère déterminant pour intégrer l'E2C. Écoutons leur témoignage.
Bonjour Marion, comment s'est passée la réunion d'information collective à l'école?
Ça s'est assez bien passé. Au début, j'avais un peu peur parce que quand on rentre dans un truc nouveau, on a tous un peu une boule au ventre et tout. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Donc j'étais pas trop à l'aise, puis petit à petit les formateurs, ils ont su me mettre à l'aise. Puis bon, après il y a eu besoin d'avoir une dérogation pour moi parce que vu que j'étais mineure et que c'était surtout pour les 18-25 ans. Donc il a fallu appeler la conseillère de la mission locale pour qu'elle fasse une dérogation à la responsable de l'école.
Comment s'est passé l'entretien individuel?
Pour mon entretien, je savais pas trop quoi dire, je bafouillais un peu, j'étais un peu paniquée parce que je me demandais est-ce que je fais une bonne impression, est-ce que ça va, est-ce que je parle correctement, enfin, je me posais trop de questions. Petit à petit, elle a voulu me décontracter, elle a voulu me mettre un peu plus à l'aise, donc elle y allait plus court et tout, puis à la fin ça s'est très bien passé. J'ai montré toute la motivation que j'avais et puis je leur ai montré que moi si je voulais rentrer dans ça, c'était pour vraiment travailler et puis... Pourquoi pas trouver un travail.
Bonjour Kevin, comment s'est passé ton entretien?
Très bien, j'étais un peu nerveuse au début quand je suis arrivé à l'école. Mais la responsable m'a mis à l'aise. Elle m'a expliqué tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'école, comme les horaires, les règles, les cours et les stages que j'allais faire.
Tu as été retenue ou pas?
Oui, ils m'ont pris. ils ont dit que j'avais la motivation suffisante et que comme j'avais envie d'apprendre et de trouver un métier, ils allaient m'aider à trouver mon orientation professionnelle et tout ça.
On a compris que le critère de sélection pour entrer dans une école de la deuxième chance, c'est la motivation. Mais après le recrutement, qu'est-ce qui se passe dans l'école? On vous laisse le découvrir.
Salut, t'as quoi ce matin?
Français en première partie et maths en deuxième. Et toi?
Je sais pas, je comprends rien, je suis en positionnement.
Ah ouais, t'es à nouveau? La semaine dernière, c'est 4 nouveaux qui sont arrivés. T'inquiète, je vais t'expliquer. En fait, on a le même planning. Toi, cette semaine, tu vas avoir des évaluations de français, de mathématiques et d'informatique pour qu'ils voient un peu ton niveau. Ton planning sera définitif qu'après le positionnement. Mais en fait, c'est jamais vraiment définitif.
Ah, ok. Mais pourquoi t'attends de français?
En fait, je cherche à intégrer l'AFPA. Du coup, faut que je bosse à fond mon français parce que je suis pas très bon, alors qu'en maths, je déchire.
T'es là depuis quand?
Ça fait 4 mois. Normalement, j'ai vu avec mon référent et je devrais terminer d'ici un mois. Après, ça dépend. Certains stagiaires restent plus longtemps. C'est vraiment en fonction de ton projet et de ton niveau. Toi, tu sauras après le positionnement.
35 heures de cours, c'est quand même beaucoup.
On n'a pas que des matières générales. On a aussi du sport où on peut bosser sur son CV ou travailler le code de la route. Avec en plus des sorties culturelles et les visites en entreprise. On a aussi des partenaires extérieurs de l'école qui viennent nous faire cours, comme l'IRPS par exemple.
C'est qui?
C'est une association qui intervient sur la gestion du stress.
Et cette semaine, il y a des choses de prévues?
Ouais, on va avoir une expo jeudi.
Allez, c'est l'heure maintenant. Allez, en cours, je ferme la salle de pause. Allez.
Tiens, c'est ici que t'as cours. On se voit à midi. Salut.
Ouais, salut.
Bonjour, je suis Aurélie, votre formatrice en maths. Alors, on va commencer votre positionnement. Et comme il y en a plusieurs, de différents niveaux, j'aurais besoin de savoir quelle a été la dernière classe que vous avez fréquentée.
La cinquième, on peut utiliser la calculette.
Alors, sur le positionnement, les opérations sont apposées à la main, donc c'est sans calculette, hormis pour les pourcentages.
Et si j'y arrive pas?
Vous inquiétez pas, le positionnement n'est pas noté. Il nous permettra juste de savoir quels sont vos acquis et ce qu'il y a à travailler. D'ailleurs, on le corrigera ensemble. Et cela vous permettra de réaliser une grille de progression et votre plan de formation pour les semaines à venir, en fonction de vos acquis et de vos projets professionnels. Allez, faites du mieux que vous pouvez, c'est important pour la suite.
On a tous la même grille de progression?
Tous les stagiaires ont cette grille dans un porte-document, mais le plan de formation est différent d'un stagiaire à l'autre parce que vous n'avez pas le même niveau, les mêmes projets, ni le même rythme d'apprentissage. En fonction du positionnement, chaque compétence sera évaluée comme acquise, en cours d'acquisition, ça veut dire que vous avez des notions mais que la compétence est à revoir, ou non acquise.
C'est vraiment différent de ce que j'ai connu, ça se passe toujours comme ça?
Oui. C'est ce que nous, on appelle l'individualisation. On peut fonctionner comme ça parce que vous êtes peu nombreux en atelier. Et ça sera pareil pour les modules de français, d'informatique et les modules professionnels. Allez, c'est parti?
Oui.
Et c'est parti pour le show. Interro surprise, je viens donner des cours de flow. Leur musique tourne en rond comme une course de chevaux. Je veux percer pour que ma vie soit plus qu'un long jour de repos. Aurel San, dans tes oreilles sans.
Pascal, on s'adapte vite à ce type d'organisation?
C'est vraiment un rythme à prendre. Et puis on se rend compte qu'on arrive plus facilement à progresser sur le savoir de base, mais aussi sur notre projet professionnel de cette manière. Ça respecte le rythme de chacun, et puis c'est dans notre intérêt.
Merci Pascal. L'accompagnement passe aussi par un suivi régulier d'un formateur référent. Cela fait partie du principe de la pédagogie active. Mais la pédagogie active, qu'est-ce que cela signifie?
Si la pédagogie m'était comptée à l'école de la deuxième chance.
On dit que la pédagogie est active à l'école de la deuxième chance car le stagiaire agit en fonction de ses besoins et de ses intérêts tout en participant à des projets collectifs comme le théâtre, la vidéo, la radio. Cela lui permet d'acquérir des capacités comme savoir se présenter, savoir parler en public, savoir travailler en équipe et tout ça en lien avec son projet socio-professionnel.
Nous allons écouter donc des témoignages des jeunes qui sont intervenus dans plusieurs projets.
L'atelier Espace Vert, il a débuté il y a quelques mois. Et avec d'autres jeunes, on s'est dit qu'on allait aménager un petit coin de jardin dans la cour de notre école de deuxième chance. Le projet il m'a appris à avoir l'esprit d'équipe. Et J'ai pu aussi m'intégrer plus facilement dans l'école. Je voulais y participer car mon projet professionnel, c'est d'être jardinier.
L'atelier d'écriture m'a apporté à avoir un peu plus confiance en moi. Ça m'a aidé à mieux écrire, à faire moins de fautes. Puis ça m'a permis de m'évader dans les textes que j'ai pu écrire.
Moi, le projet radio, il me plaît. Ça me permet de commencer à toucher à tout ce monde-là qui m'intéresse et j'aimerais bien en faire mon métier. Et puis la radio, de manière plus générale, ça m'intéresse parce que il y a un côté plus vivant que toutes les autres formes de médias. Il y a un contact avec les autres différents.
Pour mes entretiens avec des employeurs, ben, j'avais vraiment un énorme trac pour passer la porte et aller de l'avant. Prendre la parole avec l'employeur. Et à travers le théâtre, j'ai vraiment appris à m'ouvrir, à prendre confiance en moi et à me décoincer et aller de l'avant comme ça, sans avoir peur en fait. C'est vraiment à prendre le risque.
Alors les projets permettent donc à chacun des jeunes de s'investir à titre personnel et aussi donc de créer une véritable dynamique de groupe au sein de l'école. Ça permet aussi d'améliorer les relations interpersonnelles et ça permet aussi à chacun de découvrir et de respecter la culture des autres. Et enfin, je dirais qu'avec le formateur, il y a une meilleure relation de confiance qui s'instaure et avec un meilleur sens aussi des responsabilités.
Dans les écoles de la deuxième chance, on utilise des méthodes d'apprentissage originales pour une meilleure assimilation des connaissances et pour une plus grande implication du stagiaire. Ce qui en plus lui permet de valider des compétences. D'ailleurs, cet après-midi, durant les assises, nous avons animé un atelier de découverte d'outils pédagogiques. N'est-ce pas, Nadège ?
Oui, les stagiaires ont découvert deux jeux.
Tu peux nous en parler ?
Dans Habilité clé, il faut organiser une tournée de livraison, ce qui permet d'apprendre, par exemple, à classer des dossiers et à lire des cartes routières. Le jeu Trivial Pursuit, créé par les élèves, permet de tester leurs connaissances dans le savoir de base. J'ai trouvé cet atelier très sympa et ludique.
En fait, les écoles améliorent constamment leur pédagogie. L'objectif, c'est de nous faire progresser sur le savoir de base et sur notre projet professionnel. Du coup, les écoles sont entrées dans une démarche qualité. En décembre 2012, ils ont intégré le réseau E2C France.
La labellisation, justement, c'est quoi ? On est allé poser des questions à nos formateurs, on vous invite à les écouter.
Qu'est-ce qu'est la labellisation ?
Une démarche qualité qui a été mise en place afin de répondre à un cahier des charges précis.
Afin de fonctionner en réseau et d'harmoniser les pratiques pédagogiques.
C'est aussi du coup un gage de qualité d'avoir été labellisé.
Qu'est-ce que cela change pour les stagiaires ?
Alors cela permet d'assurer un meilleur suivi des stagiaires, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan pédagogique.
Pour un stagiaire de l'E2C, ça individualise son parcours, afin de répondre vraiment à ses attentes.
D'échanger éventuellement avec des stagiaires, d'autres élèves qui sont partout en France.
Ça apporte un meilleur suivi de leur dossier, du moins un suivi beaucoup plus rigoureux et harmonieux.
Comment s'est passée la labellisation ?
Toutes les ERDC se sont réunies afin de pouvoir améliorer les outils et les pratiques pédagogiques que l'on utilise dans chaque centre de formation.
On avait un cahier des charges envoyé par le réseau des écoles de la deuxième chance avec pas mal de critères.
Et ensuite, il y a eu donc le grand audit réalisé par AFNOR, qui est un organisme labellisateur.
Au final, les 8 écoles régionales ont reçu le label École de la deuxième chance au niveau national.
Nous remercions Nadège et Pascal qui sont venus témoigner en direct sur ce plateau.
Tout de suite, on accueille les écoles de Perpignan et Narbonne pour parler de citoyenneté, laïcité et discrimination.
L'heure de Narbonne, ça fonctionne. Discrimination, laïcité, citoyenneté. À l'heure de Narbonne, on n'oublie personne.
À l'heure de Perpignan, on est tous gagnants.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Salut Alison.
Nous sommes animateurs stagiaires à l'ERDC de Narbonne et nous allons vous parler de discrimination, citoyenneté et laïcité.
À l'école, on travaille beaucoup sur ce sujet. On va apprendre à se positionner face à des situations de société, à savoir donner son avis, la tolérance et l'ouverture. Eh bien, on va commencer par parler de la discrimination et la laïcité.
Nous avons préparé cette émission de radio avec l'aide de nombreuses personnes.
vous pourrez entendre le témoignage d'un auxiliaire de vie, Monsieur Didier Arderue.
Et aussi le témoignage d'une stagiaire. Dis-moi Aurélien, par quel sujet va-t-on débuter notre programme ?
Eh bien, pour commencer, nous allons parler du handicap. Pour cela, nous avons rencontré Monsieur Mandouille, le directeur de l'ESAT, l'Envol de Narbonne, qui nous a accueillis dans ses locaux pour une interview en présence de son équipe.
Donc, allez, on va s'asseoir.
Nous sommes donc stagiaires à l'URDC de Narbonne pour essayer de refaire aussi une réinsertion.
Voilà, donc ça fait 20 ans que je suis en ESAT, donc spécifique au secteur de l'intégration par le travail. C'est nous qui faisons le travail de cantonnier que faisaient avant les anciens agents municipaux. Donc on entretient les rues, on entretient les parcs, on entretient toutes les zones commerciales. Et donc ce sont des personnes en situation de handicap qui le font.
Est-il difficile pour eux de trouver un emploi ?
Qu'est-ce que l'emploi ?
Rentrer dans le monde du travail, entreprise, patron, les horaires, qui peuvent être des fois contraignants pour eux par rapport à leur maladie.
Alors, ouais, ça, ce sont des critères à prendre en considération. Il faut savoir que, bien souvent, c'est une question, ce qui a constitué leur handicap au cours du fil du temps, c'est la non-intégration des règles de vie en collectivité ou des codes qui ont été imposés par la société. Donc, ce qui veut dire que si nous avons été éduqués en tant que personnes normales, où on nous a toujours dit, ou à l'école, ou au travail, vous laissez vos problèmes au vestiaire, si on faisait la même chose avec les personnes en situation de handicap, elles ne seraient pas en capacité de travailler parce qu'elles seraient débordées par leurs problèmes. Donc, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'une entreprise attend un résultat sur un travail à réaliser et pas les problèmes qui empêchent la personne de réaliser le travail dans un temps imparti. D'accord ? Nous, on travaille différemment. Donc, nous, on travaille avec une clientèle. Elle bénéficie d'une exonération de charges par rapport au client parce qu'elle donne du travail à la personne en situation de handicap. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'effectivement, nous, on ne parle pas. On dit que le travail va se réaliser, mais on se donne une fourchette de temps pour réaliser ce travail. Parce qu'on y intègre éventuellement les imprévus, les impossibilités et les interactions que les personnes ne peuvent pas le faire en temps voulu.
On tenait à vous remercier pour tout le temps que vous nous avez accordé et de votre disponibilité pour l'école de l'ERDC. Merci beaucoup.
Dis-moi, Alison. Quel est le thème du prochain témoignage ?
Dans le cadre d'une interview sur le sexisme, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Un métier dit de femme, exercé par un homme. Il s'agit d'auxiliaire de vie. N'est-ce pas Aurélien ?
Un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'on va parler du choix de Monsieur Arderue, d'exercer ce métier parmi des femmes.
Nous recevons Didier Arderue, assistant de vie aux familles, dans les locaux de l'ERDC de Narbonne, en vue de réaliser une interview à propos de son travail.
Alors, je m'appelle Didier, j'ai 50 ans et j'ai fait pendant près de 20 ans de l'insertion sociale et professionnelle. Et j'ai décidé de changer de métier, de me consacrer aux personnes âgées ou personnes en difficulté, handicapées.
Vos études n'ont pas été trop dures ?
Parfois, c'était pas de grandes études, c'était surtout de l'approche des personnes et des connaissances théoriques et après pratiques. C'est vrai qu'il y avait des choses comme la couture ou le repassage ou ce genre de tâches que sont faites par les femmes, qui c'était pas évident pour moi.
Ressentez-vous de la discrimination face à vous ?
J'appellerais pas ça discrimination, j'appellerais ça de la méfiance lorsque monsieur débarque ou dans une maison de retraite ou surtout à domicile pour aider. Il y a la difficulté de demander à faire des toilettes ou des douches à des dames ou même à des messieurs. Hein. Et donc là, c'est une approche très lente, mais bon, laborieuse.
Vous sentez-vous moins reconnu face à la femme dans ce métier ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être un atout, justement. Un plus.
Quel est votre plus beau souvenir dans ce métier ?
J'en ai beaucoup. Surtout les personnes âgées, parce que je les aime. Donc, et puis, ils étaient très contents. C'est ça, mon beau souvenir. Très contents de m'avoir. Contents de voir débarquer un monsieur. Ils voulaient me garder tous, évidemment. Mais bon, c'était pas possible. Donc, c'est très sympathique.
Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé et de votre disponibilité.
C'était avec plaisir.
Le RDC de Narbonne, l'école où les esprits fusionnent. On questionne, ça bouillonne. On raisonne, ça fonctionne. Si tu te la donnes, tu cartonnes.
Eh bien, pour clôturer ce volet sur la discrimination et la laïcité, nous allons aborder un sujet très sensible, avec une certaine innocence d'une stagiaire.
Il s'agit bien entendu d'un papier radio. Réalisé par Sophie, atteinte de troubles du comportement, elle nous livre son parcours et ses douleurs.
Ma vie a cet handicap, depuis que j'ai 17 ans, je fais des crises à ma mère. Pour avoir ce que je voulais, je me roulais par terre, criais, pleurais. Ma provocation me suit depuis toute petite. Mon handicap, c'est la compréhension. En grandissant, je pensais que tout serait fini, vivre ma vie, normalement. Amoureuse, professionnelle. Non, dès que je me vexe, je suis plus moi-même. Je suis si méchante, désagréable. Mon handicap, j'ai du mal à comprendre les simples choses. Au primaire, quand j'étais petite, j'étais dans une classe spécialisée. On se moquait de moi, on me tapait. Je n'avais pas d'amis, je restais seule dans mon coin. Aujourd'hui, je suis plus forte pour me battre. Même si je reste avec mon handicap, je serai toujours debout. J'ai été en foyer, j'ai pleuré devant mon balcon, subi à le ciel de être comme tout le monde. Sans réponse. Alors, j'ai pris le mauvais chemin. J'ai fait des bêtises, être gentille, mais après être très très méchante. La question que je me pose, est-ce que j'ai mérité ma place? Je suis partie de ce foyer, j'ai arrêté les bêtises, mais un matin, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, faut que je me relève. Je ne vais pas me laisser abattre par la vie. Je me lève pensant que demain, c'est un autre jour. Je me demande, est-ce que j'aurai un lendemain? Je me dis aussi, avec des si, on referait le monde. J'ai la force de me battre. C'est toi, ma maman, qui me rend si heureuse. Je veux réussir, montrer ce que je suis, comme tout le monde.
Nous tenons à remercier Sophie pour son témoignage touchant, ainsi que toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien pour réaliser cette émission de radio, et le public pour sa présence et son écoute. À bientôt pour une prochaine émission en direct de Narbonne.
On va maintenant accueillir l'école de Perpignan, qui va nous présenter le sujet de volet discrimination, citoyenneté et laïcité. Ils vont parler plus précisément de laïcité.
La laïcité, c'est bien.
Battons-nous pour la laïcité.
Laïcité. C'est bien.
C'est bien la laïcité. Je suis en quelque sorte de la cité. Connaître la laïcité. Ouvre la porte de ton cœur. Oublie les rumeurs. Laisse tomber ta mauvaise humeur. Rechercheur de textes complets. Je le répète sans cesse. La vie on l'encaisse en rail de cesse. Trop jeune, fourvoyé. Alors vous voyez, l'alcool, drogue, tous noyés. Je trouve pas ça drôle. Trop de pertes de contrôle. Trop de frères en camisole. Faut que tu retrouves ton rôle. Arrête de faire le guignol. A fortune manquera de torgnole féroce.
Soyons naïfs.
Laïcité, c'est bon ça.
Laïcité.
Qu'est-ce que laïcité? Vive laïcité.
Bonjour à tous, bonjour Manon.
Bonjour Lauricia.
Nous faisons partie de l'ERDC de Perpignan qui a travaillé sur le thème de la laïcité dans notre pays et dans le monde. Suite à nos recherches, nous avons vu qu'il existe 10 pays laïcs. Nous avons interviewé plusieurs personnes pour qu'ils nous expliquent la vision qu'ils ont de la laïcité dans leur pays.
En effet, durant la semaine du Festival international Visa pour l'image, nous avons rencontré 4 jeunes reporters étrangers à qui nous avons posé des questions.
Nous allons écouter Bianca d'Espagne, qui était en service volontaire européen à l'Union catalane MJC, ainsi qu'Anna Rouel du Luxembourg, Amine de Turquie, Adja du Monténégro, tous trois faisant partie du projet Culture Lab financé par le ministère des Affaires étrangères.
Interviewés par nos confrères Michael et Sid, qui leur ont posé à tous les mêmes questions.
S'ils savaient définir la laïcité.
Comment cela se passe dans leur pays.
Et enfin, ce qu'ils en pensaient personnellement.
Nous les écoutons.
Pour moi, la laïcité, c'est un peu l'indépendance de la religion avec l'État. En Espagne, on dit que nous sommes un pays laïque, mais vraiment, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a une intervenance de l'État dans l'Église et de l'Église dans l'État. C'est ça. Pour moi, c'est la manière d'avoir le plus respect possible dans un même pays.
Anna Runge,
vous venez de
Luxembourg.
Moi, je pense que c'est quand un pays est plutôt indépendant en ce qui concerne la religion, donc il n'y a pas de religion imposée par l'État et qu'il n'y a pas de cours de religion, d'une religion spécifique à l'école, oui, que chacun est libre de choisir sa religion.
Je m'appelle Emine, je viens de Turquie et les façons d'officiels, de gouvernement ou les autres choses, quelques contradictions dans ma tête, mon religion et mes idées un peu idéales. Mais je ne suis pas un vrai pratiquant de musulman, mais je ne suis pas attaché à gouvernement ou politique pour participer à toutes les idées facilement pour vivre ensemble.
Donc vous venez de Monténégro?
Je viens du Monténégro, je m'appelle Angela.
Okay.
Je pense que mon pays est indépendant. Des gens d'un autre pays peuvent avoir leur opinion et ses religions. Et le gouvernement n'est pas à l'influence sur notre religion, notre opinion. Et c'est ça. Oui, pour moi, c'est très bon et je pense que tous les pays doivent avoir l'indépendance dans le pays.
Merci à ces jeunes reporters.
Nous avons aussi reçu un élu politique interviewé par Yannick. Nous les écoutons.
Donc Jean-Luc Chambon, je suis le maire de Canoës, vice-président du conseil général et vice-président de l'agglomération de Perpignan.
Qu'est-ce que vous pensez de la laïcité en France?
La laïcité est en France depuis 1905, et surtout ce grand principe laïque garantit la liberté de conscience dans tout l'espace public. Et la laïcité garantit que dans les espaces privés, le religieux peut s'exercer. Donc en fait, la laïcité, ce n'est pas une loi, comme on l'entend ces temps-ci, anti-musulmane ou anti-islamique ou anti... Pas du tout. Ça garantit l'expression de toutes les religions, mais dans des espaces privés. L'espace public est un espace, je dirais, bienveillant, sinon neutre.
Comment mettez-vous en œuvre la laïcité au quotidien dans votre circonscription?
En ce qui concerne l'Amérique Canoise, mais tous les mandats que j'ai, c'est l'être humain est au cœur du service public. Donc le citoyen est au cœur du service public dans ses différences et côtés semblables qu'on a les uns les autres.
D'accord.
On est bienveillant, attentif à l'intérêt général. Vous êtes en pleine dans l'actualité, puisque vous avez vu que Vincent Pillon fait afficher à partir du 9, donc aujourd'hui je crois, ou de hier, une charte sur la laïcité. Une loi du 8 juillet 2013 oblige aussi tous les établissements scolaires qui accueillent des élèves à afficher aussi la charte des droits de l'homme. Et l'une et l'autre ont 17 articles.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci aux stagiaires qui ont participé au projet.
Et bien sûr, nous remercions nos formateurs.
Est-ce qu'un jour, le thème de la laïcité aura le même sens pour tout le monde?
Nous laissons la parole à Caroline qui nous fait un petit compte-rendu des ateliers proposés par notre centre de Perpignan.
Bonjour. Dans les ateliers de cet après-midi, nous nous sommes exprimés sur les différentes discriminations. Nous avons utilisé les photolangages avec les photos du concours de l'ERDC de Languedoc-Roussillon, ce qui a amené une discussion très enrichissante.
Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre?
Nous avons aussi créé les CV imaginaires et des collages et des lettres de couleur. Puis nous avons essayé des petits groupes de reconnaître les CV de chacun afin de nous exposer nos œuvres et discuter des avantages des inconvénients de cette technique d'animation. C'était très vivant.
Nous allons maintenant accueillir nos collègues d'Alès qui vont nous parler des freins à l'insertion.
E2C.
L'envie d'y croire. La deuxième chance, on voit la vie comme on pense, comme on veut. On se réalise plus de galères, on savoir-faire nous sort de la misère. Le dossier.
L'envie d'y croire.
Bonjour Brice.
Salut Blandine.
Bienvenue aux assises de l'EDC en direct de Montpellier.
Nous allons vous parler des freins à l'insertion. À l'école, une attention est portée sur le sujet et plus particulièrement à la santé et la mobilité.
On va vous faire écouter M. Stéphane Legras, assistant au projet de plateforme mobilité de la Maison de l'Emploi d'Alès.
Il va nous parler des freins à la mobilité et des actions prévues.
En fait, nous souhaiterions à long terme mettre en place dans cette plateforme mobilité la possibilité de louer des véhicules à tarif social, navette, taxi social et aussi de pouvoir financer des permis de conduire pour les jeunes qui sont soit au RSA, soit Pôle emploi, soit référent PLI ou toute autre personne, que ce soit senior. En fait, nous aimerions englober vraiment toutes les personnes qui ont vraiment un problème de mobilité.
Quels sont les freins à la mobilité ?
Le gros frein qu'on peut voir aujourd'hui, c'est malheureusement, pour travailler, il faut le permis de conduire. Beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et ça, c'est le premier frein à la mobilité, étant donné le territoire et la ruralité du territoire. Ensuite, on a d'autres freins qui sont un peu plus psychologiques, c'est-à-dire la peur de prendre les transports en commun, ne pas sortir de chez soi, avoir peur du monde social. Tout ça, c'est des freins psychologiques mais qui sont traités au niveau de la mobilité. Mais au niveau de la plateforme, ce sont des freins que l'on rencontrera, mais qui seront gérés par le référent qui aura envoyé le demandeur auprès du conseiller mobilité.
Quelles sont les actions qui seront mises en place pour combattre ce problème de mobilité ?
Un atelier pré-code pour apprendre tout ce qui est le langage du permis de conduire, parce que c'est très difficile. Beaucoup ont du mal à s'adapter. Et puis le code, on sait qu'il devient de plus en plus difficile. Ensuite, des ateliers de mobilité seront mis en place pour les gens qui ont peur de prendre les transports en commun. Alors, c'est des ateliers qui porteront sur des thèmes comment savoir se déplacer, le coût du transport, le positionnement de la personne par rapport à un trajet, tout ce qu'on peut voir sur Internet, comment aller réserver un billet de train, un billet de bus sur Internet, plus de l'accompagnement en dehors de l'atelier mobilité, c'est-à-dire qu'on mettra en place des ateliers où on prendra les bus avec les personnes pour les accompagner. On fera des itinéraires un petit peu bus-train, pourquoi pas aller jusqu'à Nîmes ou jusqu'à Montpellier en train et revenir en bus. C'est des petits ateliers pour aider les gens à pouvoir se déplacer et prendre surtout, le gros problème, c'est prendre confiance en soi au niveau des transports en commun, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens se sentent pas à l'aise au niveau des transports et après ne savent pas comment se déplacer.
Monsieur Gras, merci.
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 Bonne journée.
Nous remercions Stéphane Legras de nous avoir reçus pour cette interview.
On va vous faire écouter un jeune stagiaire de notre école. Il a slamé pour exprimer son ressenti sur l'école. Il s'agit de Kamelka. Écoutons-le.
Ouais, Kamelka. Ok, en direct. Ouais, ok. Yeah, yeah. Ma priorité. Yeah. Galérer, transpirer, travailler, ok. Ça tu sais pas, c'est calme et calme. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Bouge les bras avec, t'inquiète pas, mec, c'est moi. Mais mets-toi à l'aise, t'inquiète, je vais t'expliquer. Dans la situation où je suis au feu de serre, j'ai pas le temps de rigoler, non plus pour te travailler. Moi je suis là pour réaliser mon projet, t'as pas figé, alors laisse-moi m'exprimer. Bouge la tête et les bras avec. La tête et les bras
à
tête, mec,
t'inquiète. Cet après-midi, des stagiaires d'Alès ont animé l'atelier mobilité et santé avec le jeu de l'étoile de l'E2C.
Oui, il s'agit d'un jeu que les stagiaires de notre école ont fabriqué. C'est un jeu qui est entre le trivial poursuite, tabou et dessiner, c'est gagner.
Les questions sont sur la santé, la mobilité, la drogue, entre autres.
L'animation de cet atelier s'est bien passée et puis ça permet d'apprendre des choses que l'on ne sait pas.
Je suis dans ma bulle, j'ai pas envie de sortir. Sauf pour aller m'acheter 10 grammes. Mais je dois aller chercher du boulot. J'ai la flemme.
Comme vous le savez, il existe plusieurs addictions, mais le plus courant sont l'alcool et la drogue. Cette action peut être des freins à l'insertion. Nous avons interviewé des personnes des associations Reseda, ANPA, qui sont intervenus pour des ateliers au sein de notre école.
En effet, nous avons eu des ateliers de sophrologie, de yoga du rire, de discussion sur les addictions. Ces associations interviennent fréquemment au sein de toutes les écoles de la région. Écoutons-les.
Je suis Sandrine Lantac, je suis psychologue et j'interviens à l'école de la Seconde Chance dans le cadre d'un module gestion et des émotions et addictions. J'anime des séances de yoga du rire dans le cadre de ce module que nous avons construit en partenariat avec ma collègue qui va se présenter.
Donc, je suis Gaëlle Allégret, je suis animatrice de prévention à l'ANPA, Association nationale de prévention en addictologie et à alcoolologie, travaillant sur le lien qu'il peut y avoir entre la gestion des émotions et les consommations de produits.
Et ma collègue Marie Deblas, elle, propose la sophrologie.
Ces techniques permettent d'aller vers un mieux-être, à pouvoir mieux gérer son stress, ses émotions, et aussi prendre confiance en soi et trouver son potentiel à l'intérieur de soi.
Alors de notre côté, sur les deux séances autour des addictions, où on va essayer de faire le lien justement entre les émotions qui peuvent être ressenties et le fait d'aller consommer une substance psychoactive ou de se mettre à jouer pendant des heures sur un jeu vidéo par exemple, qui fait partie aussi de comment on va pouvoir exprimer des choses de manière virtuelle alors que parfois dans la réalité on a plus de mal à les exprimer.
Quelles sont les aides que vous pouvez apporter aux personnes sous addiction d'alcool ou de drogue ?
Alors, une des premières aides, ça va être l'écoute. Ensuite, nous avons toute une équipe avec les travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues qui reçoivent au centre d'addictologie. Mais en tout cas, d'être accompagné dans une démarche de réduction du risque, voire d'arrêt ou de gestion du comportement quand il s'agit d'une addiction sans produit.
Pensez-vous que la sophrologie et le yoga du rire peuvent aider à l'insertion et dans quelle mesure ?
Dans le contexte dans lequel on intervient au niveau de l'école, c'est aussi et surtout pour parler et proposer des outils de régulation des émotions, parce que ce que je crois qui est intéressant dans l'insertion, c'est d'apprendre à réguler et à gérer son émotion. Mais il y a aussi des choses que vous faites tous, hein, faire du sport, ça permet aussi de réguler un peu les émotions, des choses toutes simples, hein, prendre une douche, voilà, tout ce qui va aller dans le sens de se prendre un temps pour soi, de se recentrer, de se canaliser, et puis de pouvoir du coup être plus efficace et dans le projet sur lequel on est. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci aussi à Stéphane Legras et aux associations Reseda et NPA qui nous ont accordé de leur temps pour ces interviews.
Et maintenant, on va écouter un autre morceau de notre slammer, Kamelka. À toi.
Kamelka. Yeah. Yeah. Le premier jour. Yeah. Le premier jour que j'étais vu, juste, j'ai eu un coup de foudre de C. Je suis gêné de te l'annoncer que je t'aime en amitié. Le premier jour que je t'ai rencontré, j'avais les yeux qui pétillaient. J'ai un projet à réaliser, le dossier, je suis là pour travailler et pour réaliser mon projet, non pas pour rêver, car ici c'est pas la télé-réalité, car ici encore plus beau, le dossier, c'est la réalité.
Sur ce, bonne journée à tous et nous accueillons l'école de Carcassonne qui va nous présenter le volet sur les compétences psychosociales.
Bonjour et bienvenue à l'R2C de Carcassonne.
Bonjour Yannick.
Bonjour Andrea.
Nous allons vous présenter une série de reportages sur le thème des compétences psychosociales. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, écoutons Nicolas et Nadège.
Hey Nico,
ça va? Dis, tu as déjà entendu parler des compétences psychosociales?
Ça va et toi? Ben oui, pourquoi?
Parce que sur les documents est listée une suite de compétences comme se connaître soi-même, tu comprends?
Oui, se connaître soi-même veut dire faire un travail pour identifier ses points forts, ses points faibles, mais aussi de défendre ses opinions et écouter celles des autres. C'est un partage.
Ah ok, d'accord. Donc, par exemple, savoir se faire comprendre et savoir communiquer servent à établir des rapports de façon positive et de conserver des relations amicales.
C'est ça. Mais dis-moi, sur ta liste de compétences, il y a quoi d'autre?
Ben, savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions.
Et alors, tes problèmes, tu sais les résoudre?
À vrai dire, non, pas trop. Et toi, comment fais-tu pour les résoudre?
Ben, tout dépend de la situation. Se calmer, réfléchir, c'est exprimer un problème qui est ressenti, choisir un but positif et bien sûr, imaginer toutes les solutions possibles.
Ah ok. Mais pour ce qui est de gérer ton stress et tes émotions, comment tu fais?
Tout en identifiant les sources de stress, en les réduisant et en améliorant mon hygiène et style de vie. Tu vois, quand je rentre du boulot, ce que j'aime, c'est prendre une douche et me relaxer.
D'accord, bon ben enchanté de ça. Hein. Donc au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Il s'agit de comportements et d'attitudes dans la vie courante et professionnelle, c'est ça?
C'est ça, tu vois, t'es pas si bebeux que ça, je te félicite. Ça va, t'es rassuré?
Oui, très rassuré, merci.
Merci Nicolas et Nadège pour cet éclairage.
Nous allons à présent rencontrer Laurie, ancienne élève de l'ERDC de Carcassonne, qui, comme nous allons le découvrir, a connu depuis un parcours jalonné de succès.
En effet, Laurie Bauer a été embauchée par le magasin de vêtements DS suite à son parcours à l'école et qui, depuis, gravit les échelons puisqu'elle est aujourd'hui responsable du magasin.
Une belle ascension qui nous prouve qu'à force de travail, on peut réussir sa vie professionnelle et ce, même sans diplôme.
Un reportage de Sarah, Anna et Andrea.
Alors, Laurie Bauer,
qui êtes-vous?
Qui je suis? Donc, je suis responsable de ce magasin depuis juin de cette année. Et mon contrat a commencé, enfin, je travaille ici depuis octobre 2008.
D'accord. Vous êtes une ancienne stagiaire de l'école régionale de la seconde chance. Oui. Quel a été votre parcours?
Donc, j'ai commencé à l'école de la deuxième chance, j'avais 18 ans. J'ai fait donc trois stages en tout. Un stage à Netto, au Pont Rouge, donc deux semaines. Puis, je suis retournée à l'école. Ensuite, j'ai fait un second stage à Kiabi et le troisième ici, qui depuis, je reste ici.
Comment avez-vous connu cette entreprise?
Celle-ci?
Oui.
J'étais cliente. J'étais cliente, donc ça me plaisait ce qu'ils faisaient, les vêtements, leur article me plaisait. Donc à tout hasard, j'ai demandé s'ils prenaient des stagiaires et je suis tombée au bon moment où ils prenaient des stagiaires.
Quelles sont les qualités pour une vendeuse?
Les qualités pour une vendeuse, donc déjà c'est une bonne présentation. Ensuite, c'est elle, son dynamisme, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dégage. Si on voit qu'elle a envie de bosser, c'est une bonne vendeuse. Si on voit qu'elle n'a pas trop envie, il n'y a pas forcément à avoir de qualification ou forcément d'expérience, parce que moi, j'en ai jamais eu d'expérience dans la vente quand j'ai commencé ici. Pour tout vous dire, j'ai arrêté l'école en CM2 et j'ai pas eu d'études par la suite par rapport à mes origines, donc j'ai pas pu. Mes cultures non plus, donc j'ai pas pu. À mes 18 ans, je voulais me débrouiller de moi-même. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite dans cette école. Donc après, c'est l'envie.
Merci les filles pour cette enquête instructive et bravo Laurie pour ce beau parcours.
Et tout de suite, un reportage exclusif de Jason, Robert et Farid.
Rencontre avec Jean Kézergue, président de la Chambre des commerces et de l'industrie de Carcassonne, Limoux et Castelnaudary.
Magnéto.
Je suis Jason, élève de l'école de la deuxième chance. J'ai quelques questions à vous poser.
D'accord, mais je vous écoute avec grand plaisir.
Quel est le profil de vos salariés?
Un profil très divers, donc deux personnes ayant des formations d'ingénieurs agronomes avec des collaborateurs qui sont des magasiniers et qui sont également des chauffeurs-livreurs qui ont une formation spécifique amenée par la formation continue.
Quelles sont les qualités qui vous semblent indispensables pour vos salariés, vos stagiaires?
Alors, pour les salariés, c'est une chose, pour les stagiaires, ça n'est une autre. Donc, un salarié, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être capable d'évoluer en permanence, d'avoir un objectif de satisfaction client, de comprendre qu'il n'y a d'entreprise que parce qu'il y a des clients, et donc qu'il faut savoir amener une qualité optimale aux clients en permanence et s'adapter aux réglementations, aux législations en vigueur. Et pour les stagiaires, ben, c'est une ouverture d'esprit. C'est savoir ouvrir les yeux, les oreilles, comprendre et avoir envie de voir des choses nouvelles et de comprendre des choses nouvelles.
Pensez-vous, monsieur, que dans l'Aude, comme en France, on favorise l'embauche des jeunes ?
L'embauche des jeunes, oui. Enfin, je crois que les entreprises, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on se tourne vers l'avenir et il n'y a pas d'avenir sans des jeunes. Donc, il y a une volonté d'avoir des jeunes dans l'entreprise. Encore faut-il que ces jeunes aient envie d'être là demain.
Êtes-vous pour la qualification en alternance des jeunes ?
Ah oui.
Quel serait, selon vous, le système à activer pour améliorer l'emploi dans notre département ?
Pour améliorer l'emploi, ce qui est important, c'est que déjà l'éducation nationale s'ouvre le plus possible vers le monde de l'entreprise. Hein. Il y a souvent deux mondes qui se côtoient et qui ne se connaissent pas. Les enseignants connaissent très peu en France l'entreprise. Par contre, dans les formations comme celles que nous dispensons dans les chambres de commerce, avec un développement de l'alternance, on a bien sûr un maillage et un phénomène d'interaction entreprise-école qui est efficace, puisqu'à aujourd'hui, les jeunes qui sortent des centres de formation comme notre CFA ont 85 à 90% de taux de placement. Il y a des solutions, il y a du boulot, il y a un accompagnement. À aujourd'hui, je ne sais pas l'âge que vous avez les uns les autres, quel âge vous avez ? 19 ?
20 ans.
20 ?
18.
Qu'est-ce qu'on est content ? Non mais attendez, vous avez tout d'homme, vous avez 18 ans. Pour tout apprendre.
Merci Monsieur Kayser de nous avoir ouvert les portes de la CCI.
Merci aux reporters de l'R2C Carcassonne.
Carcassonne vous dit à bientôt et on accueille maintenant les écoles de Nîmes et de Béziers qui vont nous parler de l'alternance avec l'entreprise.
En direct live ER2C Béziers Nîmes. En direct live ERDC Béziers Nîmes.
Bienveillance,
opportunité,
complicité,
maturité,
formation,
expérience,
équipe,
respect,
solidarité,
entraide,
réussite,
contrat,
compétence,
deuxième chance.
Bonjour à tous, je m'appelle Laurie, je suis élève à l'école de Nîmes.
Bonjour, moi je suis Omer, élève à l'école de Béziers. Ensemble, nous allons animer ce volet sur l'alternance.
Oui, en effet, l'alternance rythme notre vie à l'école. L'entreprise, c'est très important. Elle est au cœur de notre parcours et valide l'acquisition des compétences en milieu professionnel.
Tout à fait. Lorsque nous avons réussi nos stages pratiques, nous avons une attestation des professionnels.
D'ailleurs, Omer, nous écouterons Rémi, ancien élève de l'école de Nîmes, qui est aujourd'hui tuteur en entreprise où il a été placé.
Puis, nous enchaînerons avec une discussion familiale animée à propos de l'entreprise, de l'apprentissage.
Et nous terminerons ce volet par une chanson, un rap intitulé « La rage avancée ».
Ok Laurie, mais d'abord l'alternance, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la question qu'on a posée aux passants dans la rue.
Alors, est-ce que vous connaissez l'alternance pour les jeunes ?
Pas trop, non. Mais selon moi, je pense que déjà, il est important de savoir qu'il y a deux types d'alternance. Il y a l'alternance de professionnalisation et celle de formation. Bon, celle de professionnalisation, ça permet surtout aux jeunes, surtout de 16-25 ans, de savoir vers quel métier ils veulent se lancer. C'est souvent des personnes qui ont déjà un métier, qui veulent changer de métier, donc ils partent faire une alternance pour savoir à quoi consiste le métier qui sera peut-être leur métier de demain. Celle de formation, c'est surtout pour voir en fait ce qui a été vu dans un lycée ou une fac. le côté théorique et celle de formalisation, c'est le côté théorique en fait qui va être mis en pratique dans l'entreprise en question.
Vous avez vous-même fait de l'alternance ?
Non, parce que pour le moment je poursuis toujours mes études et c'est pour le moment on me l'a pas encore proposé, mais je pense que c'est ce que je vais faire plus tard et ça va être un BTS.
Si ce sont les contrats en alternance auxquels vous faites allusion qui veulent que d'une part le jeune soit à l'école et que d'autre part il soit en entreprise, nous pensons que c'est vraiment une excellente chose, oui.
Donc vous pensez que c'est un bon départ pour les jeunes ?
Excellent, oui, bien sûr, puisque ça leur met le pied à l'étrier tout de suite et le nez dans les réalités.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'alternance par rapport aux jeunes d'aujourd'hui ?
Que c'est pas mal parce que ça peut ouvrir des portes au niveau du professionnel et déboucher sur des CDI ou sur des CDD. Après, c'est très dur de trouver des entreprises dans la localité de Béziers.
Et si on vous dit CFA, c'est quoi qui vous vient à l'esprit ?
Les apprentis.
D'après vous, c'est quoi les différents corps de métiers qui peuvent être en relation avec l'alternance ?
Beaucoup de métiers. Autant boulangerie, accueil, commerce, c'est vraiment varié. Ça touche un panel de métiers. Ça peut être du tertiaire, du secondaire. Et on va dire de l'agriculture, c'est un peu moins vague, je pense.
Que pensez-vous de l'alternance pour les jeunes aujourd'hui ?
On ne comprend pas bien ça que c'est l'alternance. Non, pour moi, c'est espagnol. L'alternance, c'est pour se tous ensemble, mais non.
Non, c'est, en fait, c'est une semaine de cours et 3 semaines en entreprise.
Pour moi, c'est bien.
Ah, le micro-trottoir est un grand moment. Il en a fallu du courage pour vous interviewer tous ces passants, surtout sur le thème de l'alternance. C'était très constructif et surprenant pour la qualité des réponses.
Bien, maintenant nous allons écouter Rémi. Il nous raconte comment son passage à l'école et les stages qu'il a effectués en entreprise lui ont permis de prendre un nouveau départ.
Je m'appelle Rémi et je suis un ancien stagiaire de l'école de Nîmes. Avec le recul, je peux dire que la formation a été un tremplin. Elle m'a permis de rencontrer des personnes sérieuses qui m'ont remotivé pour retourner dans le monde du travail. Jusque-là, j'avais beaucoup de refus d'employeurs, de promesses non tenues. J'étais plutôt découragé, même si j'ai toujours travaillé. Mais heureusement, j'ai rencontré une tutrice qui m'a fait confiance et m'a accueilli dans l'entreprise qu'elle gère. Pourtant, elle était informée que je portais un bracelet. Elle m'a accepté en tant que stagiaire sans préjugés. J'ai enchaîné tous mes stages chez elle parce qu'elle était satisfaite de mon travail. À partir du 3e stage, j'ai été parfaitement autonome. Elle a remarqué mon dévouement, ma prise d'initiative, mon sens des responsabilités et du coup, j'ai effectué tous mes stages en entreprise dans son magasin. 8 mois au total. La qualité de son accueil, sa vision des jeunes, son ouverture et son envie de tendre la main aux jeunes, quelle qu'elle soit leur erreur, leur passé, m'a aidé à revenir dans le monde du travail, à reprendre confiance. Elle reçoit les stagiaires pour leur proposer un cadre de travail, leur permettre d'apprendre, de découvrir l'entreprise, prendre le temps d'expliquer les tâches et, quand elle est absente, je joue le rôle de relais. À la suite de ces différents stages, elle m'a fait une promesse d'embauche qu'elle a tenue. Je travaille chez elle depuis le 1er juin 2013 en CDI à temps complet. En tant que salarié, je suis au contact des jeunes de l'école, je m'occupe de les guider, de leur expliquer leur travail avec mes mots. Je suis bien placé parce que je suis un ancien stagiaire de l'école et je peux les aider à comprendre que les stages ne sont pas inutiles, qu'il faut se démarquer par son engagement, sa bonne volonté. Tout est possible si l'on croit que l'on tombe sur les bonnes personnes. L'école peut permettre ces rencontres aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent. En tout cas, il ne faut pas s'avouer vaincu et se battre. Même si on a commis des erreurs, que l'on est tombé très bas, il faut y croire et l'on peut remonter. Il faut assumer ses erreurs, prendre du recul, tirer les bonnes conclusions, garder confiance en soi et avancer. Le message à tenir de ma sortie de prison à mon parcours à l'école que je suis aujourd'hui, il n'y a pas photo. Les jeunes qui disent que l'école ne sert à rien se trompent, ne comprennent pas parce qu'ils ont une chance à saisir. Mon ambition était de trouver un emploi et j'ai atteint mon objectif en étant en formation.
Dans la vie, rien n'est acquis et au travail, on doit toujours faire ses preuves comme si c'était le premier jour. Dès qu'une brèche s'ouvre, il faut s'y engouffrer et ne pas avoir peur de s'engager. Il faut y aller.
On remercie Rémi pour son témoignage plein d'espoir pour nous tous.
Bravo Rémi pour cette belle histoire.
Là, je suis d'accord avec toi, Omer. Obtenir un contrat après les stages en entreprise, c'est super. Un CDI ou un contrat d'apprentissage nous permet de nous former tout en travaillant.
Bah, ça tombe bien, Laurie. C'est justement d'apprentissage dont il est question maintenant. Nous écoutons la fiction de l'école de Béziers.
Allez à table. Bon, dis-moi, tu comptes faire quoi de ta vie, là, maintenant?
Je vais être coiffeuse, pourquoi? Ça te dérange?
Oh, baisse d'un ton, là. J'ai pas un salaire de ministre, donc j'ai pas les thunes pour te payer une école de coiffure.
Mais t'inquiète, man, si je vais faire un apprentissage, tu pourras garder ton petit salaire rien que pour toi. Et en plus, tu feras des économies pour payer ton lifting.
Sans commentaire, ton truc d'apprentissage, ça va te servir à quelque chose, à moi?
Mais t'es sérieuse, là? Tu sais pas ce que c'est?
Oh, pardon, excuse-moi de pas être aussi intelligente que toi, ma fille. Et toi, t'es son père, t'as rien à dire?
Oh, débrouillez-vous, toutes les deux. Le principal, c'est qu'elle fasse quelque chose qui lui plaise.
Et en plus, je vais faire une semaine de cours et je vais travailler pendant 3 semaines. À la fin, j'aurai même un diplôme.
Ça a l'air compliqué, ton histoire.
Mais non, je suis grande maintenant. Je peux me débrouiller toute seule et je pourrais même te couper les cheveux.
Sans façon, non merci. J'y tiens. Et moi, je vais t'apprendre le respect, ma fille. Donc, finis ton assiette et file dans ta chambre.
En même temps, c'est pas une si mauvaise idée. Elle rentrera plus vite dans la vie professionnelle, puis on sera un peu plus tranquille. Le soir, elle sera fatiguée.
Bon, demain, on ira se renseigner et s'il faut, on cherchera un patron.
Merci, papa. Et maman.
Tout est bien qui finit bien. Elle va pouvoir réaliser son projet. Comme quoi, avec des arguments, on arrive à convaincre même les plus réticents. Laurie, notre volet alternance touche à sa fin, mais pas notre émission. Il nous reste les derniers moments à passer avec vous.
Nous vous proposons d'écouter La Rage d'avancer, un rap bien de C.
Formation, devinez c'est qui m'ouvre la porte. C'est des matins, ces petits bouffons. Direction le bus avec mon ami Bogus. Je suis en train de me réinsérer, mais pour ça ils veulent que je montre à la société mes vraies capacités. 2013 pour moi ça a été l'année de la baisse. Mais moi je parle pas, je fonce tout droit en direction du Hedma. Ok ok les gars, demain on se retrouvera Inch'Allah devant le Hedma. L'école de la deuxième chance, pour moi ça a été la dernière chance. Mais faut que j'y pense, parce qu'en France je suis tombé dans la délinquance. Mais moi je veux leur montrer que fallait pas me blesser. Maintenant c'est à moi de vous choquer.
La rage d'avancer, la rage d'avancer.
Ok, ok. Je commence à dire les choses tranquillement. Ça fait quoi à l'état si je suis H24 en survêtement? On en est qu'un faillot. Il nous a promis de belles choses. Pour l'instant, on est toujours au point zéro. H24 a pensé à voler l'iPhone d'un petit paillot. Avec la misère, je vais pas tarder à serrer. Faut vite que je me réveille avant de me faire incarcérer. Je suis une gadji avec la mentalité de gadjo. Je rêve pas du Louboutin, je rêve du million d'euros. Sur la route, j'ai démarré ce texte au volant du Merco. Je dégaine ma calache et les douilles tombent comme coule l'encre dans mon stylo. C'est Fatima. Peut-être la relève de Kenny Arcana, pur produit de banlieue, je viens du CPA Nîmes 3-0. Bref!
Si tu savais comment ça fait de se prendre une balle dans le moral, si aveugle j'ai rien vu arriver, coup brutal, fallait que je m'en sorte, tout devenait infernal. Plus qu'auparavant déterminé, j'avance seul, honnêtement, peu de personnes sur qui je peux compter, peu importe les obstacles qu'il y aura. Ce que je traverserai, mon Dieu sera. J'ai trop perdu de temps à m'amuser. Croire que la vie n'était qu'un jeu. C'est quand on fait face à la réalité qu'on ouvre enfin les yeux. Faut que je me réveille, le temps est compté. Je me défile pas, je suis pressée. Je tiens à le déclarer.
reste avec la rage d'avancer, avec la rage d'avancer. La rage d'avancer.
Voilà un bac, je fais plus rien. Je mène une vie de chien sur terre. Tu sais, mon frère, c'est la galère. Y'a tout qui s'accélère. On répète qu'il faut grandir. On s'arrête de rire. On se met à réfléchir, mais sans pouvoir choisir.
La rage d'avancer. La rage d'avancer.
Et maintenant, c'est au tour de Monsieur Cotable de la délégation régionale d'EDF de nous retrouver. Les écoles ont signé une convention de partenariat avec la fondation EDF. C'est cette convention qui nous permet aujourd'hui de réaliser cette émission de radio.
Oui, comme EDF, nous aussi, stagiaires, formateurs, direction, équipe administrative, on s'engage dans les écoles de la deuxième chance.
Monsieur Cotable, bonjour. Vous êtes délégué régional d'EDF. Vous pouvez présenter le partenariat que EDF met en place sur...
Oui, absolument. Il y a au niveau national un accord entre le réseau des écoles de la deuxième chance et puis la fondation d'EDF. Alors au titre de cet accord, tous les ans, on reçoit 20-30 projets pédagogiques et puis un jury qui se réunit, qui sélectionne et qui choisit. Et cette année, il en a choisi 15, dont deux en région Languedoc-Roussillon, le vôtre, et puis un autre à Nîmes sur la mise en place d'un réseau de médiateurs.
Pourquoi la Fondation a accepté de financer cette émission inter-école ?
Parce que c'est, si vous prenez votre projet par exemple, c'est un projet qui nous a paru très intéressant et d'un point de vue pédagogique assez formidable parce que vous avez dû le voir, ça fait plusieurs mois que vous le préparez, vous venez de le réaliser aujourd'hui, vous avez vu toutes les compétences que ça demandait pour arriver à faire ça. Vous avez dû choisir des sujets, vous avez dû organiser un déroulement d'émissions, vous avez dû faire des interviews, rédiger des textes en essayant d'être clair et synthétique, apprendre à maîtriser votre stress... Apprendre à parler de manière plus claire dans un micro, enfin tout ça c'est des compétences énormes qui vont vous être utiles.
Cette émission est donc sur le point de départ d'un partenariat régional entre EDF et les écoles de la seconde chance du Languedoc-Roussillon. Une convention a d'ailleurs été signée ce matin. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors c'est un complément régional à l'accord national. Bon, au niveau national, on finance des projets. Au niveau régional, ce à quoi on s'est engagé, c'est à aider à trouver des stages... à aider à faire de l'insertion, à chercher des emplois, à retrouver des tuteurs, à essayer, à travers toute une série d'actions, d'aider les stagiaires des écoles de la deuxième chance à retrouver une place dans cette société et d'avoir enfin leur chance.
Merci M. Cotaf, qui représente la délégation de région d'EDF, de cette intervention. Comme toutes les bonnes choses, on arrive à la fin de notre émission, n'est-ce pas Nadie ?
Tout à fait Bédrich. D'ailleurs, nous tenons à remercier nos invités, Madame Karine Chevalier, Monsieur Jean Coutave à ma gauche, Jean Thibault Dibon, mais également Jean-Jacques, Magali et Capucine à l'association Wakadi qui ont assuré la réalisation de cette émission. Merci aussi à la région qui nous a accueillis dans cette magnifique sac.
C'est pas grave. On a passé de très bons moments ensemble à RDC. Les RDC ont encore un bel avenir, c'est certain.
On vous salue au nom de toute l'équipe des animateurs de ce direct. On remercie également tous nos formateurs, nos responsables, la préparation de cette émission et donc on pense très fort à vous.
Les RDC se donnaient les moyens de réussir.
C'était les assises des délégués et stagiaires.
Une émission spéciale RDC en direct du conseil régional.
Bonne journée à tous. A bientôt pour notre aventure sur Inter-EDC.
También se podrá.